La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent Dehausset.
L'aventure commence à la fin du 19e siècle, en 1890. Il s'agit pour des brasseurs de forêt d'assurer la promotion de leur bière. L'idée est venue en effet aux frères Wilmans d'ouvrir un café sur la place de Brouckère. Ce débit de boisson, ils vont le nommer Métropole, le café Métropole, celui-là même qui quelques années plus tard deviendra l'une des adresses les plus prestigieuses de la capitale, un palace, l'hôtel Métropole.
Un établissement pittoresque, recherché et autrefois extrêmement célèbre. J'imagine que certains d'entre vous le connaissent.
Un jour dans l'histoire.
Ici, c'est un extrait du film The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Donc, on est ailleurs. On revient à Bruxelles avec vous, Virginie Jourdain. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vous avez consacré une thèse à l'hôtellerie bruxelloise entre 1880 et 1940 et puis un ouvrage au seul Hôtel Métropole qui est paru chez Luc Pire. Donc, au départ, c'est vraiment ça, la promotion d'un produit. C'est le départ de ce palace.
Mais comme vous l'avez dit, c'est vraiment les frères Wilmans qui ont un certain sens commercial et effectivement font des bières et se disent que bon, ils les distribuent dans tous les cafés comme tous les autres brasseurs bruxellois, mais ils ont envie d'un établissement un peu différent des autres, un peu plus luxueux sur le modèle parisien des grands boulevards. Et voilà, c'est assurer l'ensemble de la production et de la distribution de leurs produits.
Alors le succès est au rendez-vous assez rapidement. Ils vont acheter le bâtiment voisin qui à l'époque abrite le quartier général de la Caisse d'Épargne. C'est ainsi que naît l'hôtel Métropole. On est en 1894. Face à ce palace, comment peut-on le définir ? Qu'est-ce que c'est qu'un palace, au fond ?
Un palace, c'est vraiment une création de la fin du 19e siècle. Se loger, trouver un lit pour la nuit, ça, évidemment, ça existe depuis toujours. Mais un palace, c'est plus que ça. C'est un établissement de luxe, évidemment. Et à la fin du 19e siècle, ça veut dire associer une décoration princière, luxuriante, à toutes les technologies modernes possibles. Et donc, à l'époque, c'est le chauffage central, l'électricité, l'ascenseur, etc. Et donc, c'est ce mélange-là, avec en plus toutes des activités au sein de l'hôtel, des salons de lecture, un restaurant avec de la cuisine raffinée. Tout cet ensemble-là fait qu'on est un palace ou qu'on ne l'est pas, fait qu'on a envie d'y loger et qu'on s'y sent, en tout cas c'est l'ambition de ce genre d'établissement, qu'on s'y sente comme chez soi.
C'est un magnifique ascenseur par exemple, et là c'est le concours des frères Ledoux, c'est ça ?
C'est la firme Edoux, qui est la firme qui, à la même époque, avait fourni les ascenseurs de la Tour Eiffel. Ce qui montre bien, et c'est un exemple parmi d'autres, qu'à ce moment-là, quand les Wilmans ont décidé de créer leur hôtel, ils ont réellement fait appel aux meilleurs fournisseurs de l'époque.
Alors c'est l'architecte français Alban Chambon qui sera chargé de la déco et il va mélanger tous les styles.
Ah oui, mais on le voit encore aujourd'hui, c'est ça la force du Métropole. C'est des éléments Renaissance avec des éléments des châteaux de la Loire, avec des dorures et du marbre à profusion, des éléments un peu art nouveau aussi dans les ferronneries des lampes par exemple. Et c'est réapparu récemment, mais on a aussi des éléments de temps plein doux, par exemple. Ouais. Et tout ça dans le même lieu, c'est spécial.
Sur le toit de l'hôtel, on trouve un témoignage, au fond, de l'épanouissement, c'est l'épanouissement de la bourgeoisie à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a sur ce toit ?
Et donc, il y a une statue que, à mon avis, beaucoup de Bruxellois connaissent, puisqu'elle permet de repérer la place de Brouckère de très loin. C'est une figure, si je me souviens bien, du progrès. Qui guide, je dois vous dire, j'oublie les détails, mais enfin oui, c'est une allégorie du progrès.
Qui illumine le monde au fond.
Qui illumine le monde et qui signale le Métropole dans tout le quartier.
Que l'on peut voir encore aujourd'hui sur cette place de Brouckère qui a bien changé. Depuis, on revient donc sur cette riche histoire du Métropole et à travers lui, bien sûr, et vous y êtes intéressé, Virginie Jourdain, à la situation de l'hôtellerie à Bruxelles à la fin du 19e et au début du 20e.
Tous les jours, 13h30, 14h30, un jour dans l'histoire.
Je me souviens de toi, dans cet hôtel bruxellois. Tu étais belle, si belle, éblouissante. Nos corps sur le grand lit défait, en bas, une limousine nous attendait. Chaque jour, c'était la fête, les paillettes.
Un extrait de la chanson « L'hôtel bruxellois » du duo orchestre du mouvement perpétuel. Nous sommes donc avec Virginie Jourdain. Le Métropole, c'est aussi le contexte, Virginie, de l'aménagement des boulevards à l'époque.
On ne peut penser l'hôtel Métropole qu'avec l'aménagement des boulevards. C'est-à-dire que donc vers 1870-75, on décide de raser toute cette partie de la ville où se trouvait en fait un quartier médiéval où passait la Seine. Un quartier pauvre, un quartier délabré qui était source d'épidémies, etc. On décide de raser pour assainir, une solution radicale. Et dessus, on va créer des nouveaux boulevards et on va alors s'inspirer de ce qui se fait de plus moderne et de plus beau pour le goût de l'époque, ce sont les boulevards parisiens. Et donc, l'hôtel Métropole, il s'installe sur la partie la plus neuve, la plus moderne, la plus jolie pour les goûts de l'époque, et en plus sur un axe qui est bordé de part et d'autre par les deux gares, qui sont évidemment le mode de transport par excellence pour arriver à Bruxelles à cette époque.
C'est Jules Anspach qui est le bourgmestre à l'époque et qui effectivement, il rêve de calquer carrément Bruxelles sur Paris.
Ah oui, c'est vraiment ça, c'est faire un petit Paris à Bruxelles, c'est rivaliser avec les autres capitales européennes et quitter un peu le provincialisme que certains donnaient à Bruxelles.
Parce qu'il n'y a pas encore un grand rayonnement de Bruxelles internationalement ?
Non, certainement pas, non. C'est la capitale d'un État très centralisé, donc c'est une ville importante, tout se concentre à cette époque-là à Bruxelles, mais c'est un petit pays et d'un point de vue touristique, Bruxelles est... C'est un peu la ville sur le chemin de Paris ou de Londres, plutôt que vraiment la destination de choix.
Alors quel est le paysage justement du parc hôtelier dans la capitale à l'époque ?
Moi j'ai fait ma thèse sur Bruxelles parce que justement c'est un paysage très très diversifié. Et c'est ce que je voulais voir, de la petite pension de famille à deux chambres, au palace luxueux comme le Métropole. Il y a plein de raisons de venir à Bruxelles et pas seulement touristique. Et donc il y a des logements pour toutes ces personnes-là différentes, avec des moyens différents et des besoins différents.
La concurrence est rude alors à l'époque ?
Eh bien, oui et non. En fait, il y a énormément d'hôtels de luxe là où se trouve le Métropole, sur la place Rogier, qui est donc, à l'époque, la gare du Nord se trouve sur la place Rogier. Et le reste de la place est environné de grands hôtels. Ce sont les premiers grands hôtels à plusieurs centaines de chambres à Bruxelles. Et sur le boulevard Anspach, vous avez plusieurs autres grands hôtels de luxe. Mais je pense que, justement, cette concentration, à cette époque-là, n'est pas une concurrence. C'est-à-dire que tous les touristes, tous les gens fortunés vont dans cette partie-là de la ville et il y a une espèce d'émulation qui est en plus aidée par l'existence de tous les grands commerces, cinéma, théâtre, enfin tous les lieux de sortie se trouvent là aussi. Et donc tout ceci fait un amalgame fructueux pour tous les établissements.
Et l'autre type de clientèle plus modeste, elle va où plutôt alors à Bruxelles ?
Il y a des différents quartiers. Il y a un élément important, c'est... disons que les axes prestigieux sont réservés aux hôtels de luxe et que souvent, ces plus petits établissements ne sont pas tellement loin de ces grands axes, mais dans des quartiers, dans des rues périphériques. Donc si vous prenez la place Rogier, eh bien dans la rue du Progrès, la rue de Brabant, etc., vous avez des petits établissements, des hôtels-brasseries, des hôtels-cafés. Et donc, vous n'êtes pas sur la place de prestige, vous n'êtes pas loin, vous bénéficiez du même positionnement, mais à des prix très différents.
Alors, l'équipe pour faire fonctionner un hôtel comme le Métropole, j'imagine qu'elle est très très importante.
Certainement. Par contre, moi, en tant qu'historienne, j'ai un gros problème, et pas qu'avec le Métropole, c'est trouver des archives de l'établissement. Et pour le personnel, il faut des archives de l'établissement, et généralement, il n'en existe pas. Et parce que ce sont des archives privées, que les archives privées, on en fait ce qu'on veut. Et généralement, surtout dans l'hôtellerie, on les jette. C'est donc un grand malheur. Et donc, ce qui est vraiment du fonctionnement quotidien, qui serait passionnant, on n'a pas grand-chose. On connaît les clients prestigieux souvent, et dès que vous descendez vers les petites mains, c'est plus difficile à reconstituer.
Mais au départ, l'hôtel Métropole, donc à la fin des années 1890, il possède combien de chambres ? C'est plusieurs centaines.
Plusieurs centaines, mais à l'époque, pour vous donner un exemple, là, j'en suis certaine, le Palace Hôtel, dont l'immeuble existe encore sur la place Rogier, qui est ouvert en 1909, il a 400 chambres. Mais c'est le plus important à Bruxelles à cette époque-là, c'est vraiment énorme. Ce sont quelques exemples comme ça. Donc le Métropole doit tourner autour de ce nombre-là, mais ça reste vraiment exceptionnel et c'est aussi une preuve que Bruxelles n'est pas une grande ville hôtelière à l'époque, parce que ça c'est commun à Paris par exemple, et on est vraiment parmi les géants hôteliers quand on dépasse les 100 chambres en fait à cette époque-là à Bruxelles.
Alors il va accueillir, vous l'avez dit, de nombreux événements nationaux, internationaux, et en 1911, on cite souvent cette date, c'est une assemblée très prestigieuse qui s'y retrouve. Alors Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, c'est sous l'instigation d'Ernest Solvay que va s'organiser le premier conseil de physique Solvay. Et donc, c'est Solvay, qui est un féru de science, qui a l'idée d'essayer de rassembler en un même lieu de grands savants de l'époque pour qu'ils discutent pendant 4 jours des grandes avancées, des grands bouleversements que connaît la physique à cette époque-là. Et donc, ce premier conseil va se dérouler au Métropole, parce que comme tout grand hôtel, il a des salles pour ce genre d'événement. Et donc, on va y retrouver, par exemple, Albert Einstein, Marie Curie, Planck, Langevin, enfin, tous les très, très grands noms de la science de l'époque. Et par exemple, c'est tellement exceptionnel qu'en fait, dans cette assemblée, pendant ce premier conseil physique Solvay, on va retrouver près de 11 personnes qui ont ou auront le prix Nobel à un moment donné. C'est vraiment extraordinaire.
Alors, on le disait, c'est un des premiers palaces à Bruxelles. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se construire dans la foulée?
Oui, comme je vous le disais, le dynamisme des boulevards centraux attire évidemment d'autres grands établissements. Donc, particulièrement sur la place Rogier, vous trouvez l'Albert Ier, le Palace Hotel dont je vous ai parlé, l'Hôtel Cosmopolite, enfin voilà, tous des noms qui... Et vous en avez aussi sur les boulevards. En fait, la portion des boulevards depuis la Bourse jusqu'à la place Rogier, c'est le lieu de toutes les sorties, et donc des grands restaurants, des grands cafés, des grands hôtels, des théâtres aussi. Ouais. Et donc tout se concentre beaucoup sur cet endroit-là.
Alors quel sort va-t-on lui réserver lors de la Première Guerre mondiale?
Bien, comme tous les grands hôtels luxueux, il va être réquisitionné par les Allemands pour y loger évidemment les troupes. Le Métropole n'est pas le seul, évidemment. Sur la place Rogier aussi, on va les réquisitionner. Et donc, pendant 4 ans, ils seront occupés et donc vont subir évidemment quelques dégâts matériels. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est de nouveau, il y a un problème d'archives. C'est rentrer dans l'établissement en temps de guerre, c'est encore plus difficile.
Ces archives, quoi, on les jette, ou bien quand on les jette pas, on a un peu du mal à les faire partager, on ne veut pas. Enfin, c'est quoi? C'est une réticence de la part des propriétaires qui sont toujours d'ailleurs la famille Humanskopen.
Ça, c'est un des éléments exceptionnels. Le Métropole a deux éléments vraiment exceptionnels. C'est d'une part, c'est le seul hôtel du 19e encore en activité à Bruxelles, et il est toujours dans les mains de la même famille depuis les débuts. Et pour un hôtel de ce standing-là, c'est vraiment très très rare. En fait, effectivement, vous avez raison, il y a un petit stress du point de vue de la concurrence, on n'aime pas trop donner ces chiffres, etc. Mais vraiment, le premier problème de base, c'est que c'est une industrie qui bouge beaucoup. Et le passé, c'est le passé, c'est pas très intéressant, ce sont des vieux papiers, et donc les historiens se battent pour ça, mais généralement, non, ça prend de la place et on s'en débarrasse à chaque transformation, rénovation, changement de propriétaire, C'est une catastrophe.
Virginie Jourdain est avec nous. On va quand même essayer de retracer donc cette saga de l'hôtel Métropole, 120 ans d'histoire aujourd'hui.
Ici, nous sommes dans la grande suite de François Meyer-Gans. Donc, c'est un grand écrivain belge de l'Académie française. C'est un client très habitué à l'hôtel Métropole et nous lui avons donc attribué cette suite. Voilà, donc vous pouvez me suivre. Donc, nous vérifions tout. Donc, la propreté... Tout doit être parfait donc pour accueillir tous les clients. Voilà. Vous pouvez passer à la salle de bain. Vous pouvez me suivre. La baignoire qui fait office de jacuzzi, qui est ici. Ils viennent pour le confort, bien sûr. Ils viennent pour l'accueil, mais ils viennent parce que bon, ils se sentent chez eux. C'est un hôtel familial. Nous suivons les clients. Donc ils nous font confiance. Ils viennent chez nous. Surtout, être discret. Tout voir, mais ne rien dire.
Un jour dans l'histoire.
Voilà, ça c'est une des notes d'un palace, enfin des choses essentielles, c'est la discrétion, c'est pouvoir arriver et pouvoir en repartir sans que personne ne sache quelque chose finalement, Virginie Jourdain.
Ah oui, ça fait partie de l'offre en plus, je dirais, d'un palace. Effectivement, le Métropole encore actuellement reçoit des politiques, des grands acteurs. Bah, leur désir, c'est d'être effectivement tranquille quand ils logent à Bruxelles et voilà, ça n'a pas de prix, je pense.
1925, les propriétaires qui sont toujours donc la famille Wilmans, on le disait, entreprennent d'agrandir l'hôtel Métropole. Qu'est-ce qu'ils y ajoutent alors? Comment ils s'agrandissent, l'hôtel?
Eh bien, donc ça fonctionne très bien. On est encore dans des années fastes, dans les années 20. Et donc, oui, ils décident d'agrandir l'hôtel. Et de nouveau, ils ont une vision très globale, très, très novatrice et très ambitieuse, puisque ils vont concrétiser ça au début des années 30. Ils vont demander à Adrien Blom de construire carrément un bloc Métropole. Mmh. C'est-à-dire que l'hôtel va se prolonger à l'arrière jusqu'à la rue Neuve. Et de l'autre côté, sur la rue Neuve, ils vont décider la construction d'un cinéma, puisque le cinéma est très, très en vogue dans l'entre-deux-guerres. Et donc, ils vont construire le cinéma Métropole avec des étages de chambres supplémentaires au-dessus du cinéma, un dancing, etc. Vraiment un projet très grand.
Avec des boutiques aussi. Est-ce que c'est une volonté de rendre le métropole plus populaire, de s'adresser à un autre public ?
Non, parce que je pense, soit vous allez sur la rue Neuve et vous voyez le cinéma Métropole, soit vous êtes sur la place de Brouckère, vous voyez l'hôtel. Donc c'est deux choses complémentaires. Je pense que c'est vraiment une idée commerciale d'optimiser ce qu'on a. On est dans le bon endroit de la ville. Donc oui, le cinéma est une attente très importante à cette époque-là. Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est des milliers de personnes qui vont tous les week-ends à cette époque-là au cinéma. Donc quand on a le plus beau grand hôtel, en tout cas c'est l'ambition, pourquoi pas faire la plus grande salle de cinéma d'Europe à cette époque-là aussi. Voilà, c'est une ambition.
Les travaux sont terminés en 1932. L'inauguration du complexe va se faire en présence de la reine Astrid et de Rému, qui était l'acteur fétiche de Pagnol, hein, à l'époque, César par exemple. La Seconde Guerre mondiale voit à nouveau l'hôtel réquisitionné durant la période d'occupation par les Allemands, puis ensuite pendant un an par les Alliés. Et heureusement, ça c'est ce qu'on peut lire sur le site de l'hôtel Métropole, heureusement, malgré cette période de récession, l'hôtel peut se réjouir d'une certaine période de prospérité. Elle est due à quoi, cette prospérité, en ces temps troublés, la Deuxième Guerre mondiale ? L'hôtel est toujours fréquenté par une clientèle, même comme lorsqu'il est réquisitionné par les Allemands ?
À ma connaissance, non. Effectivement, si les troupes allemandes... Et bon, quand je vous dis les troupes allemandes, ce sont des équipes dirigeantes, évidemment. Ce n'est pas le petit soldat du coin. Non, il y a des secrets à conserver. Je ne pense pas qu'on rentre comme ça. La chance du Métropole, c'est de redémarrer très vite après, quand l'hôtel est rendu au propriétaire après 1946. Ça, oui, on entame une période faste, celle des années 50, qui culmine évidemment avec l'Expo 58, et ce sont d'excellentes années pour le Métropole.
Alors parmi les vedettes, les célébrités qui ont fréquenté l'hôtel Métropole, on cite toujours Sacha Guitry, il y a aussi tout le style Mans qui fait ses débuts à l'hôtel Métropole, c'est ça ?
Oui, le fameux café Métropole qui avait ouvert avant l'hôtel avait un orchestre de près de 25 personnes, donc c'est vraiment les cafés comme on les entend avant, et donc ce café notamment, comme c'était la grande vogue du jazz, jouait du jazz, et voilà, un petit nouveau a fait ses premières armes dans ce café Métropole, c'est évidemment tout Stillemans.
Alors il y a les scientifiques, on le disait, les artistes aussi fréquentent, bon Sacha Guitry, mais les autres artistes fréquentent le Métropole, c'est un lieu de rassemblement.
Tout à fait, mais d'autant plus que, comme je vous dis, on est dans le lieu de sortie, on est près des cinémas, donc les acteurs qui viennent promotionner leur film venaient évidemment au Métropole plus facilement, et encore maintenant d'ailleurs.
Alors quels sont les grands noms que l'on peut retenir de cette clientèle d'artistes au Métropole ?
Ça dépend des périodes, mais vous avez Caruso par exemple qui a laissé un petit mot. On retient Sacha Guitry parce qu'effectivement ses dédicaces sont assez amusantes.
Ouais. Il y a un livre d'or bien sûr à chaque fois.
Oui, il y a plusieurs livres d'or, tout à fait. Et donc le premier date de la fin du 19e siècle. Et à ce moment-là, c'est très rare, c'est la fille d'un des frères Wilmans qui a eu cette idée-là, qui était fan de musique et voilà, qui en a profité pour faire signer les artistes qui passaient.
Parce que les livres d'or, bien sûr, on les conserve.
Eh bien, pas tous. De nouveau, je vous dis, les archives, c'est assez récent, cette prise de conscience que les archives peuvent avoir une valeur aussi commerciale. D'ailleurs, certains livres d'or ont disparu.
Virginie Jourdain est avec nous pour retracer l'histoire du Métropole.
Tous les jours, 13h30, 14h30, un jour dans l'histoire.
Les jours de la semaine et tous les week-ends, sur toutes les scènes, j'existe. Je fais des claquettes, je fais des pirouettes et des galipettes en piste. Un jour j'ai choisi leur rire à tout prix et j'ai toujours pris mes risques. Je fais de mon mieux mes sauts périlleux, je suis dans vos yeux l'artiste.
Un jour dans l'histoire.
Voilà, l'expo, ça c'était Annie Cordy, bien sûr, qui a d'ailleurs fréquenté, j'ai vu son nom dans
oui,
le livre d'or.
Dès qu'elle vient à Bruxelles, elle descend en Métropole.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une suite maintenant,
tout à
Annie
fait.
Cordy.
Comme elle vient régulièrement, une suite a été aménagée pour elle. Il y a même un placard fermé à clé qui n'est qu'à elle et qu'elle ouvre quand elle est ici à Bruxelles.
Dans lequel elle garde ses petites affaires, peut-être.
Oui, mais il paraît qu'elle était venue d'ailleurs au Saint-Nicolas des enfants des employés de l'hôtel. Elle aime beaucoup, beaucoup le Métropole.
Alors, l'exposition internationale de Bruxelles en 58 est bien sûr un événement historique pour la Belgique. L'hôtel Métropole joue un rôle dans cette exposition.
Oui, c'est là que, d'une certaine manière, on va lancer les festivités, puisque dès 57, en fait, les organisateurs de l'expo, parce qu'ils veulent conscientiser toute la population belge, va lancer ce qu'ils ont appelé un train de l'accueil. Donc, c'est une espèce de caravane publicitaire qui va sillonner le pays pour montrer les maquettes de ce qui va se faire, de ce qu'on va faire, et surtout pour sensibiliser les Belges à bien accueillir tous les étrangers qui vont venir, puisque la Belgique sera sous l'œil du monde entier pendant 6 mois que les Belges s'y préparent. Et donc, ça va démarrer par une cérémonie à l'hôtel Métropole et ça va d'ailleurs se clôturer aussi à l'hôtel Métropole.
Est-ce que la clientèle s'élargit? On parle touriste, on parle tourisme de masse aussi. Est-ce que le Métropole va s'adresser à une clientèle plus large?
Mais c'est une caractéristique des grands hôtels, c'est surtout au 19e siècle, mais toutes les chambres ne sont pas des chambres de luxe. Mmh. En fait, vous avez quand même une gamme de prix assez large. Je m'avancerai pas autant aujourd'hui, ça je sais moins, mais vous avez une gamme assez large. Déjà au 19e siècle, des gens fortunés ont des domestiques avec eux quand ils voyagent, donc il faut des chambres adaptées à eux et qui n'ont évidemment pas les mêmes équipements. Et une autre des caractéristiques aussi, c'est plus monter dans les étages, en tout cas à l'époque. Vous avez des chambres moins chères parce que pas d'ascenseur, etc. Et donc, voilà, plus vous montez dans les étages, les chambres sont plus petites, moins bien équipées et le panel de clientèle n'est pas si limité qu'on ne le croit.
Parce que si on prend un portrait, un personnage type fortuné de l'époque, début 20e, fin 19e, début 20e, c'est en effet quelqu'un qui arrive avec toute une batterie de personnel, avec des dizaines de malles, comme on peut s'imaginer.
Oui, en tout cas, accompagné. C'est ce genre de personne ne voyage pas seul. Il y a bien une femme de chambre qui l'accompagne, qui l'aide avec les malles, etc. Comme dans les maisons particulières, en fait, hein, le domestique va loger dans les combles et quand le maître en a besoin, il descendra plus bas dans les appartements d'apparat.
Alors, durant les années 50-60, l'hôtel accueille encore des hôtes prestigieux. Hein, on peut citer le général de Gaulle, les présidents américains Eisenhower, Hoover, le chancelier Adenauer. Puis, les travaux de construction du métro vont débuter. Et là, ça va impacter aussi le métropole. Fin des années 60, c'est
oui, à partir de la fin des années 60. Et c'est pour tout le quartier, tous les boulevards centraux. Je vous ai dit que c'était le lieu de sortie jusqu'à l'entre-deux-guerres. Ces travaux des années 60 vont marquer un coup terrible pour le quartier parce que c'est un chantier interminable avec les poussières, les bruits qu'on imagine. Et c'est aussi l'époque du règne de la télévision, de la périurbanisation. C'est-à-dire que les gens vont commencer avec leur voiture à aller dans des malls aux limites de la ville où il y a des grands parkings, c'est beaucoup plus facile de circuler. Et tous ces éléments vont
s'ajouter les uns aux autres.
Ouais. Qui vont faire que le centre-ville va être quand même un petit peu moins prisé qu'avant. Et donc beaucoup de tels concurrents aux métropoles vont fermer leurs portes. Certains cinémas, les théâtres, les grands magasins qu'on connaît vont aussi fermer leurs portes. Donc c'est vraiment très très difficile. Et le métropole est un des rares à continuer à fonctionner à cette époque-là. Il paraît que pendant la construction de la gare de métro de Brouckère, il y avait un immense trou sur la place de Brouckère. Il fallait accéder à l'hôtel par une petite passerelle. Donc vraiment, d'un point de vue commercial, c'est vraiment pas facile à vendre, on va dire. Mais il ne va pas fermer ses portes et va passer ces années difficiles en courbant le dos, on va dire, en attendant des jours meilleurs.
Et en effet, on voit une perspective de la place de Brouckère qui est transformée depuis ses origines. La fontaine, par exemple, centrale a disparu.
Voilà, par exemple, la fontaine qui était dédiée au bourgmestre en Spack, elle va être déplacée du côté du quartier Sainte-Catherine. Tout ce qui était encore un lieu de promenade, de circulation, va devenir deux grandes routes pour le tout à la voiture, qui évidemment n'est pas très convivial non plus pour circuler dans ces établissements du quartier.
Dans les années 2000, on va procéder à d'autres travaux de rénovation encore. Et puis 2002, c'est une année importante. Pourquoi, Virginie Jourdain ?
Ah, très important. Enfin, d'une part, le métropole ne fait que se transformer. Et comme tous les grands hôtels, si vous voulez rester à la page, vous devez en permanence être en travaux. C'est une caractéristique de tous ces hôtels. Mais 2002 est une année très importante puisque la région bruxelloise va reconnaître la qualité architecturale du rez-de-chaussée du métropole et va le classer. Donc depuis lors, plus question de transformer quoi que ce soit dans le bas de l'hôtel sans l'aval des monuments et sites.
Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de palace encore ? Est-ce que c'est encore un palace ? Parce que si on regarde à Paris l'hôtel Plaza, le Plaza Athénée, le Meurice, on se dit que ce n'est pas tout à fait la même catégorie. Est-ce qu'aujourd'hui, le métropole est encore un palace ?
c'est un palace bruxellois, donc effectivement, vous n'avez peut-être pas la même clientèle. La grande transformation, c'est justement le passage d'une clientèle de touristes fortunés à plutôt une clientèle d'hommes d'affaires, qui ont aussi des très grandes exigences. Donc on peut continuer à dire que le métropole est un palace réellement. Ils ont des attentes très pointues et ça demande notamment des adaptations dans les salles de conférences, de réunions, etc., avec tout le matériel high-tech nécessaire. Mais oui, c'est peut-être pas Paris avec toutes ces images de clientèle des Émirats qui veulent telle ou telle spécificité un peu farfelue, mais ça reste vraiment très pointu avec un service qui doit tenir la route.
Avec la cette famille toujours Wilmans Kuppens qui multiplie aussi les activités qui ouvrent des centres d'art, le Wills notamment, elle reste l'âme toujours du métropole cette famille.
Du métropole, oui. La famille a revendu les activités brassicoles. Oui. Et donc le Wills avec, dans les années, si je ne me trompe pas, 60-70, je ne sais plus. Enfin, la dernière bière brassée au Wills date de 88. Et depuis, en fait, le bâtiment a été racheté par la région. Et c'est la région qui a ouvert ce centre d'art contemporain dans un bâtiment assez exceptionnel.
Le Métropole, l'Hôtel Métropole, Virginie Jourdain. Est-ce que le bouquin est toujours disponible chez Luc Pire?
À ma connaissance, il est épuisé, mais s'il y a un grand intérêt, savoir.
Il est sorti il y a 2-3 ans, je pense, un peu plus.
Ou un peu plus.
Voilà, l'Hôtel Métropole.